un personnage fort singulier, mais à propos de qui il est très difficile d'avoir des informations claires sur lesquelles tout le monde est d'accord. Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, serait né en Guadeloupe en 1739 ou en 1745, mais les informations à propos de son enfance sont très fragmentaires. En fait, même décider comment on devrait l'appeler, c'est pas si simple, parce que Joseph est né esclave. Sa mère était une esclave afro-descendante qui s'est fait appeler Anne d'Annevaux après s'être installée en France, et son père était un grand propriétaire terrien d'origine française qui possédait des plantations de canne à sucre et de café à la Guadeloupe et près de 300 esclaves. Joseph est donc le fruit d'un viol. Et j'entendais un biographe de Joseph Bologne, quelqu'un qui a consacré sa vie à son œuvre, dire que c'est un enfant de l'amour entre un planteur et une esclave. C'est une notion qu'il faut rejeter. Et je me permets une parenthèse. Quand une femme appartient à un homme, il n'y a pas de notion de consentement qui peut s'appliquer. Comment peut-on dire non à quelqu'un qui a droit de vie ou de mort sur vous? La vraie question, c'est plutôt ce paradoxe qui existait chez les propriétaires d'esclaves. Ils ne considéraient pas les personnes noires comme étant des êtres humains, mais plutôt comme des marchandises. Pourtant, ils ne se privaient jamais d'avoir des relations sexuelles avec des individus qui n'étaient pas vraiment humains. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le sexe est une composante centrale de la plupart des théories racistes. Combien d'hommes racisés ont été abattus pour avoir attenté à l'honneur d'une femme blanche? C'est une expression qui pouvait vouloir dire absolument n'importe quoi, alors qu'à l'inverse, on ne s'est jamais privé d'érotiser les femmes racisées. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas essayer de trouver un côté romantique à l'esclavage. Notre Joseph, né d'une mère esclave, est le produit d'un viol. Il n'avait donc pas de nom de famille à la naissance, on l'appelle Bologne de Bologne, parfois Boulogne, mais à l'âge adulte, il recevra le titre de chevalier de Saint-Georges. C'est le nom que porte la rue parisienne qui rappelle sa mémoire. Des propriétaires qui faisaient des enfants à leurs esclaves, c'était pas rare. Joseph de Saint-Georges aura la chance de voir son père se préoccuper de son sort, ce qui n'allait pas de soi. Il envoie Joseph et sa mère en France, ce qui fait d'eux des gens libres. Même si vous étiez esclave dans les colonies, comme l'esclavage avait été aboli en France métropolitaine, dès que vous mettiez le pied dans le pays, vous étiez affranchi d'office. De plus, on confie Joseph à Nicolas Texier de la Boétière, un des maîtres d'armes les plus fameux de l'époque. Avec de la Boétière, Joseph va recevoir une éducation d'aristocrate et va apprendre à manier l'épée au point de devenir un des plus brillants escrimeurs de son temps. De nos jours, être un maître de l'escrime, ça ne vous vaut pas nécessairement une grande renommée, c'est un sport qui se pratique plutôt dans l'anonymat, mais à l'époque, les grands escrimeurs étaient des stars. À 15 ans, il battait les plus forts tireurs. À 17, il avait acquis une prestesse de mouvement qui déconcertait les plus grands maîtres. Mais Saint-Georges n'était pas doué que pour l'escrime. Jamais personne n'a déployé plus de grâce sous les armes et il n'excellait pas moins dans tous les autres exercices du corps. Personne ne pouvait l'atteindre à la course. Il dansait avec un agrément merveilleux. Montait à cru les chevaux les plus difficiles et les domptait. Il se distinguait parmi les meilleurs nageurs de son temps, et l'hiver, quand la glace fermait les rivières, c'était un passe-temps pour la haute société que d'aller voir patiner Saint-Georges, tant il avait perfectionné un art aussi frivole. Bref, il est bon dans tout, et pas seulement pour ce qui est physique. Il va également devenir un musicien de renom. C'est un virtuose du violon. Il est premier violon dans un orchestre dès la jeune vingtaine. Il sera aussi un chef d'orchestre réputé. Il dirige un ensemble considéré par une publication de l'époque comme un, sinon le meilleur de toute l'Europe. On l'invite à la cour du roi d'Angleterre. Il est un ami personnel du prince de Galles, le futur roi George IV. Il se produit dans des cours princières jusqu'en Hongrie. On le retrouve à Versailles. Et certains de ses biographes racontent qu'il aurait été le professeur de musique et potentiellement l'amant de la reine Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, guillotinée pendant la Révolution française. C'est difficile de distinguer le vrai du faux dans tout ça. Pendant sa vie, le fait qu'il provenait en partie d'une bonne famille, que son père était très riche, ajouté à ses talents naturels et l'effort qu'il a mis à développer tous ses talents, ont réussi à limiter l'impact qu'a eu sa condition de métis, fils d'esclave. Mais il semble peu probable qu'on ait été ouvert d'esprit au point qu'il puisse être un intime de la reine, encore moins un très intime. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'intéressait pas les dames. On a dit de Saint-Georges, je cite, « Il est en outre un très valeureux champion en amour et recherché de toutes les femmes instruites de son talent merveilleux, malgré la laideur de sa figure. » Ouch! Ceci dit, j'ai vu ailleurs qu'il était très beau. J'ai vu qu'il mesurait 1m80, mais aussi des fois 1m67. C'est très difficile de se faire une idée là-dessus. Si sa place réelle à la cour de France est sujet à débat, on sait qu'il devient presque un membre de la famille du duc d'Orléans, un personnage de haute noblesse à l'époque. C'est un descendant direct du roi Louis XIII de France et le grand-père du futur Louis-Philippe Ier. Son épouse et lui avaient leur propre théâtre. Notre chevalier de Saint-Georges s'est produit devant tout ce que la France comptait de ducs, de duchesses, de comtesses, de marquis et je ne sais trop. Saint-Georges va réussir à se tailler une place enviable dans le Paris de la deuxième moitié du 18e siècle, en dépit de ses origines, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a jamais vécu d'épisode de discrimination. Il avait été pressenti pour diriger l'Académie royale de musique, précurseur de l'actuel Opéra de Paris. Trois des vedettes de l'Académie ont protesté en haut lieu, disant que leur honneur et leur privilège ne leur permettaient pas d'être soumises à la direction d'un mulâtre. La candidature de Saint-Georges n'a pas été retenue. Il a toutefois, en plus de diriger d'autres sociétés orchestrales, composé de nombreuses œuvres, des sonates, des concertos, des symphonies, surtout pour le violon, son instrument de prédilection, dont une sonate pour deux violons qu'on entend présentement. Il a aussi composé des opéras comiques, des opérettes, mais ses œuvres opératiques n'ont pas toujours été très bien reçues. Je vous lis une critique qu'on a faite d'Ernestine, opéra comique dont il signait la musique, qui a été présentée à Paris en 1777. On ne pouvait guère choisir un sujet plus agréable, on ne pouvait guère le défigurer d'une manière plus maussade. Messieurs de Laclos et des Fontaines, les librettistes, ont ajouté un rôle de valet qui est le chef-d'œuvre de la platitude et du mauvais goût, on croirait entendre Denise Bombardier. La composition de M. Saint-Georges, quoique ingénieuse et savante, a paru manquer souvent d'effet. On a trouvé de la grâce, de la finesse, mais peu de caractère, peu de variété, peu d'idées nouvelles. L'opéra en question a été perdu, une seule de ses œuvres opératiques a survécu jusqu'à nos jours. Mais je ne vous ai parlé que de la carrière sportive, de la carrière musicale de Saint-Georges jusqu'à présent. On n'a pas encore abordé la question du chevalier de Saint-Georges, le militaire. Il débute très jeune dans une unité qui s'appelait les gendarmes de la garde du roi. C'était réservé aux gens de bien. Comme disait Henri Guillemin, il fallait avoir une certaine situation pour en faire partie. Cette unité était rattachée à la maison royale, mais ce n'était pas la garde rapprochée du monarque, malgré ce qu'on pourrait penser. Mais le gros de sa carrière militaire se fera pendant la Révolution française. Il va d'abord être capitaine dans un régiment de la Garde nationale, une milice créée en 1789 pour servir de force de police essentiellement dans le Paris de la Révolution. Ça s'est étendu par la suite aux autres villes du pays. Saint-Georges va combattre les Autrichiens alors que nombre de monarchies européennes vont se liguer contre la France révolutionnaire. Autant les têtes couronnées aimaient se faire la guerre, autant ils réalisaient qu'il ne fallait pas que les peuples d'Europe prennent goût à la démocratie, comme l'avaient fait, par exemple, les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Les futurs États-Unis, pas le futur Canada qui a eu besoin d'un autre 2 siècles pour réussir à faire son indépendance, et encore là. En 1792, Saint-Georges participe à la création d'un régiment qu'on a d'abord appelé la Légion franche des Américains, pas au sens d'Américains des États-Unis, au sens de Français originaires des colonies du continent américain. Saint-Georges est nommé colonel de ce régiment qu'on a souvent appelé la Légion Saint-Georges, premier colonel afro-descendant de l'armée française. Mais malgré ses états de service pour la Révolution, il sera accusé de sympathie royaliste et emprisonné pendant près d'un an. Après sa libération, l'armée refuse de le réintégrer et il va consacrer les dernières années de sa vie à la musique. Il décède en 1799, donc au milieu de la cinquantaine ou au début de la soixantaine, dépendant si on croit la date de naissance de 1739 ou celle de 1745. Et sa musique va tomber dans l'oubli. On a dit que c'était parce qu'il était noir qu'on va arrêter de jouer ses œuvres. Il se peut que sa musique était tout simplement passée de mode. Un phénomène peut avoir plusieurs différentes causes. Mais il semble avoir été ramené au goût du jour. En sondant l'Internet, on peut voir que de nombreux orchestres, aux États-Unis tout particulièrement, ont mis sa musique au programme ces dernières années. Et il connaîtra la consécration en avril prochain, alors qu'Hollywood lancera un film racontant sa vie, quoique j'aurais presque envie de mettre « racontant sa vie » entre guillemets. D'une part, il faut toujours se méfier des films basés sur des faits vécus. Ça peut vouloir dire n'importe quoi. Dans ce cas-ci en particulier, pour avoir vu la bande-annonce du film, ça me semble être plus une fantaisie sur le thème de Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, qu'une véritable œuvre biographique. Mais on va donner la chance au coureur. Qui sait? Je pourrais être surpris.